Nous sommes dans le fumier jusqu'au cou. C'est vrai? C'est justement pour ça que nous marchons la tête haute. La réplique du fou dans Mort accidentelle d'un anarchiste de Dario Fo. Dario Fo, metteur en scène, acteur, dramaturge, peintre, rien que ça? Ah oui, et un prix Nobel de littérature en 97 pour, je cite, une figure éminente du théâtre politique qui, dans la tradition des battleurs médiévaux, fustige le pouvoir et restaure la dignité des humiliés. Allons-y, on commence donc cette nouvelle saison du Théâtre de la Gamelle avec l'auteur italien Dario Fo.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clindinardaire, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour et bienvenue à tous sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canut. Avec nous dans le studio, Miguel Peltera, Jules Jobard, Jade Bréchelière, Fatah Boudia, Pauline Thirault et Charlotte Touilleux qui a préparé cette émission sur Dario Fo et à qui je laisse la parole.
Merci Anaïs. Alors, donc nous allons parler aujourd'hui de Dario Fo. Donc je vais vous faire rapidement une petite présentation de l'auteur. Donc c'est un auteur contemporain italien. Et son théâtre, on peut dire qu'il y a un théâtre assez subversif, avec une forte charge sociale. Il va mettre en avant les dérives du système capitalisme, la surconsommation, les abus de pouvoir, la corruption. Et c'est vrai que quand on lit toute la bibliographie de Dario Fo, on a aussi un reflet de l'histoire des dernières décennies en Italie, avec les années de plomb, les mains propres, et dernièrement, assez récemment, Berlusconi. Il a d'ailleurs comparé Berlusconi avec le personnage d'Alfred Jarry, Uburois, dont on avait parlé dernièrement dans le théâtre de la Gamelle. Et c'est également un théâtre populaire, j'ai envie de dire, car c'est un théâtre qui va parler des choses de la vie quotidienne, qui va s'adresser au peuple, aux ouvriers, aux opprimés. Il veut vraiment donner la parole aux opprimés. Et il va utiliser énormément des techniques de conteurs. Il va utiliser un langage en reprenant des accents de différentes régions d'Italie, en utilisant un parler de tous les jours. Et il va également avoir un théâtre du geste avec une présence scénique très forte, avec énormément d'improvisation et en utilisant également la commedia dell'arte, avec ce jeu de masques et de tours de passe-passe. Alors, nous allons donc commencer maintenant avec la lecture de Mort accidentelle d'un anarchiste. Donc c'est une pièce qui a été écrite en 1970 et qui parle donc, qui se passe dans un commissariat à Milan. Un fou va être interrogé dans ce commissariat par un commissaire, et ce fou, par un jeu de passe-passe, il va prendre la place d'un juge qui est chargé de l'enquête d'une mort accidentelle d'un anarchiste qui est tombé malencontreusement du quatrième étage du commissariat. Et donc ce fou va prendre la place du juge qui va faire l'enquête sur cette mort accidentelle.
Le soir du... Oh, peu importe la date. Un anarchiste, de son métier mécanicien au chemin de fer, se trouvait dans cette pièce-ci pour être interrogé sur son éventuelle participation à l'opération de dynamitage dans les banques, qui avait causé la mort de quelque chose comme 16 citoyens innocents. Voici textuellement vos paroles, monsieur le préfet. Je pensais qu'il pesait encore sur son compte des indices graves, c'est bien ce que vous avez dit ?
Oui, au début, monsieur le juge. Ensuite...
Bon, nous n'en sommes qu'au début. Procédons par ordre. Vers minuit, l'anarchiste, pris d'un raptus... C'est toujours vous, mon cher, qui parlez. Pris d'un raptus, s'est jeté par la fenêtre et s'est fracassé sur le sol. Or, qu'est-ce qu'un raptus ? Bon Dieu dit que... le raptus, est une forme exacerbée d'angoisse suicidaire qui s'empare d'individus psychologiquement normaux. Si on provoque chez eux un violent désarroi, une angoisse désespérée exacte...
Exact.
Ah, voyons un peu ce qui a provoqué ou qui a provoqué cette angoisse et ce désarroi. Procédons à la reconstitution des faits. C'est à vous d'entrer en scène, monsieur le préfet.
Moi ?
Oui, allez-y. Voudriez-vous me jouer votre fameuse entrée ?
Pardon, quelle fameuse entrée ?
Celle qui a provoqué le fameux raptus ?
Monsieur le juge, il doit y avoir confusion. Ce n'est pas moi qui suis entré, c'est un de mes adjoints, un collaborateur.
Ce n'est pas beau de rejeter la responsabilité sur ses subordonnés. C'est même plutôt vilain. Allons, pour vous racheter, jouez donc votre rôle.
Vous savez, monsieur le juge, il s'agit d'un expédient classique auquel on a recours dans toutes les polices, simplement pour faire avouer le prévenu.
On ne vous demande rien, vous. Laissez parler votre supérieur hiérarchique, s'il vous plaît. Oh, vous êtes bien mal élevé. Dorénavant, ne répondez que si on vous interroge, compris ? Bon, et vous, mon cher ? Je vous en prie, jouez-moi cette entrée à la première personne.
D'accord. Les choses se sont passées à peu près ainsi. Le prévenu se trouvait là, assis exactement où vous êtes. Mm-hmm. Mon collab... Je suis entré avec une certaine violence.
Bien.
Et je l'ai attaqué.
Oh, c'est comme ça que je vous aime.
Mon cher mécanicien subversif de surcroît, cesse de te moquer de moi.
Non, s'il vous plaît, tenez-vous-en au texte. Il n'y a pas de censure ici. C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
Oui, j'ai dit... j'en ai marre que tu cherches à m'entuber.
Oh, vous vous en êtes tenu à entuber ?
Oui, sur ma parole.
Je vous crois, continuez. La fin de votre tirade.
Nous avons la preuve que c'est toi qui as déposé les bombes à la gare.
Quelles bombes ?
Je parle de l'attentat du 25.
Ah non ? Répondez dans les mêmes termes que ce soir-là ? Imaginez que je suis le cheminot anarchiste. Allez, courage, quelle bombe ?
Ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien de quelle bombe je veux parler, celle que vous avez placée dans des wagons à la gare centrale il y a 8 mois.
Ah, et en aviez-vous vraiment la preuve ?
Non, mais comme vous l'expliquait tout à l'heure le commissaire, il s'agissait d'une ruse classique à laquelle nous recourons souvent dans la police.
Oh, quelle fine gaule !
Nous avions tout de même des soupçons. Puisque le prévenu était le seul cheminot anarchiste de Milan, il était facile de déduire que c'était lui.
Ah bah bien sûr. C'est une lapalissade, une évidence, dirais-je. Puisque c'est sûrement un cheminot qui a placé les bombes au chemin de fer, nous pouvons aussi déduire qu'au palais de justice de Rome, c'est un juge qui a placé les autres. Oh, et sur le monument aux soldats inconnus, c'est un soldat inconnu. Et à la banque de l'agriculture, c'est un banquier. Ah, ou un agriculteur, au choix. Allons, messieurs. Je suis venu faire une enquête sérieuse et non jouer aux syllogismes absurdes. Continuons. Je lis. L'anarchiste ne semblait pas atteint par l'accusation. Il avait un sourire incrédule. Qui a fait cette déclaration ?
C'est moi, monsieur le juge.
Ah, très bien. Donc, il souriait. Voici une autre commentaire, ce sont vos propres termes, textuellement, cités aussi par le juge qui a classé l'enquête. L'un des facteurs de la crise suicidaire a été incontestablement la crainte de perdre sa place, d'être licencié. Quoi ? D'abord le sourire incrédule, et puis, oh, tout d'un coup, la peur. Qui a chaussé de gros sabots pour lui parler de mise à pied immédiate ?
Non, je vous donne ma parole, en ce qui me concerne, je...
Oh non, je vous en prie, n'essayez pas de minimiser. Vous n'êtes pas sûrement des virtuoses de l'archer, vous deux. Allons donc, tous les policiers de la Terre y vont aux manches de pioche. Et que c'en est un plaisir. Je ne vois pas pourquoi vous seriez précisément les seuls à prendre des gants. D'ailleurs, c'est bien votre droit, il ne manquerait plus que ça.
Merci, monsieur le juge.
Ouais, non, il n'y a pas de quoi. Il arrive toutefois que ce soit dangereux. On dit à un anarchiste...
Tes affaires vont mal.
Que dira le directeur des chemins de fer quand nous lui apprendrons que tu es un anarchiste ?
On le flanquera dehors, congédié.
Et voilà qu'il perd courage. Un anarchiste, à vrai dire, tient plus qu'un autre à garder sa place. Au fond, ce sont des petits bourgeois attachés à leur petite commodité. un salaire fixe à la fin du mois, une prime, ah, le 13e mois, la retraite, la sécurité sociale, une vieillesse sereine. Personne ne pense autant à ses vieux jours qu'un anarchiste, vous pouvez me croire. Donc, récapitulons. Vous brisez le moral de l'anarchiste, vous le désespérez et... il saute.
Permettez, monsieur le juge, honnêtement, ce n'est pas arrivé tout de suite. Il manque mon intervention.
Ah oui, vous avez raison. Il y a eu le fait que vous êtes d'abord sorti, commissaire, puis rentré. Vous avez pris un temps et vous avez dit... Allez, commissaire, récitez votre tirade. Imaginez toujours que c'est moi l'anarchiste.
Oui, bien sûr. Je viens de recevoir un coup de téléphone de Rome. Jolie nouvelle pour toi, ton ami, pardon, ton camarade, le danseur, a tout avoué. C'est lui qui a déposé la bombe à la Banque de Milan.
Mmh. Et lui, le cheminot, comment a-t-il pris la chose ?
Mal, il a pâli, il a demandé une cigarette, il l'a allumée.
Oui, il a sauté.
Non, pas tout de suite.
Ah, dans la première version, vous avez dit tout de suite, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
Ah, de plus, dans votre déclaration à la radio et à la télévision, vous avez dit que l'anarchiste, avant d'accomplir son geste tragique, se sentait perdu. Il était coincé. C'est bien comme ça que vous avez dit.
Oui, exactement, j'ai dit coincé.
Et qu'avez-vous ajouté ?
Que son alibi, selon lequel il aurait passé le fameux après-midi de l'attentat à jouer aux cartes dans un bistrot de Naviglio, s'était effondré, qu'il ne tenait plus debout.
Ah, et que par conséquent, l'anarchiste pouvait être considéré comme gravement suspect dans les attentats contre les banques de Milan, et non seulement contre les trains. Vous avez ajouté pour conclure que le geste suicidaire de l'anarchiste était, de toute évidence, un acte d'accusation.
Je l'ai dit.
Quant à vous, commissaire, vous avez hurlé que cet homme de son vivant était une fripouille, un criminel. Au bout de 2 ou 3 semaines, vous avez déclaré, monsieur le préfet, voici le document, que naturellement, je dis bien naturellement, on n'avait aucune preuve matérielle contre le pauvre cheminot. Exact ? Il était donc parfaitement innocent. Et vous, commissaire, vous avez même ajouté ce commentaire. Cet anarchiste était un brave garçon.
Oui, je le reconnais. Nous nous sommes trompés.
Oh, je vous en prie. Je vous en prie, tout le monde peut se tromper. Pourtant, excusez-moi, vous y êtes allé un peu fort. Laissez-moi vous le dire. Vous commencez par arrêter arbitrairement un libre citoyen, puis vous abusez de votre autorité en le retenant au-delà du délai légal. Vous traumatisez alors ce pauvre mécanicien en prétendant que vous avez la preuve qu'il est le dynamiteur du chemin de fer et ensuite vous provoquez en lui plus ou moins volontairement la psychose du licenciement. Puis c'est son alibi de la partie de cartes qui s'effondre. Et pour finir, coup de massue avec rebondissement, son ami et camarade de Rome s'avoue coupable du massacre de Milan. Oh, son ami est un hideux assassin. Si bien qu'il a cette réflexion désolée, c'est la fin de l'anarchie, et qu'il saute. Vous n'êtes pas un peu fou ? Comment voulez-vous qu'un homme, ainsi tourné en dérision, ne soit pas pris d'un raptus ? Ah, ça, je regrette, mais selon moi, vous êtes... entièrement responsable de la mort de l'anarchiste, a inculpé sur le champ pour instigation au suicide.
Ce n'est pas possible, monsieur le juge. Notre métier, vous l'avez reconnu vous-même, est d'interroger les prévenus pour les faire parler. C'est inévitable. On doit parfois recourir à des stratagèmes, des traquenards, et même un peu de violence psychologique.
Je comprends. Ce qu'il y a, c'est que il ne s'agit pas d'un peu de violence, mais d'une violence constante. Et d'abord, aviez-vous oui ou non la preuve irréfutable que le pauvre cheminot avait menti sur son alibi ? Répondez.
La preuve irréfutable, non.
Oh, quelle imagination. Vous devriez écrire des romans tous les deux. Oh, vous en aurez peut-être l'occasion, croyez-moi. On est fort bien en prison pour écrire. Ça vous donne un coup de cafard, hein ? Oh, j'ajouterais même en toute franchise. Car Rome, on a contre vous la preuve accablante des fautes graves que vous avez commises. Vous êtes brûlés, l'un et l'autre. Le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur ont décidé de vous débarquer pour faire un exemple aussi sévère que possible et de restaurer, mon Dieu, le crédit de la police.
Impossible, incroyable.
Et comment pourrait-on ?
Oh, rien de plus sûr. Vos carrières à tous les deux sont fichues. C'est la politique, mes bons amis. Vous avez d'abord été utile dans un certain jeu. Il fallait matraquer les luttes syndicales, créer un climat de mort à la subversion. On vous en remercie. Mais aujourd'hui, le vent a légèrement tourné. La mort de l'anarchiste défenestré a révolté l'opinion. Elle exige de tête, l'État les lui donne.
Mais pourquoi les nôtres ?
J'allais le dire.
Un vieux dicton anglais. Le maître excite ses chiens contre les paysans. Si les paysans vont se plaindre au roi, le maître, pour faire pardonner, tue ses chiens.
Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra. Una spinta e Pinelli va giù. Sir questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto. Tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se insisti apri alla finestra, quattro piani son duri da far. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
Donc nous venons d'écouter la Ballata dell'Anarchico Pinelli. Donc toute comparaison entre la défenestration du cheminot Giuseppe Pinelli dans un commissariat de Milan en décembre 1969 et l'extrait qu'on vient de lire est totalement fortuite. Juste pour rappeler, le texte date de 1970. Mais juste avant, pour compléter cette histoire de chien, je vais redonner la parole au fou.
Je vous dirais même que le dicton anglais du maître qui tue ses chiens est faux. Jamais un maître n'a tué un chien pour donner satisfaction à un paysan. C'est le contraire qui peut arriver. Et si le chien meurt dans la bagarre, le roi envoie aussitôt un télégramme de condoléances au maître et des couronnes avec le drapeau.
Merci. Et maintenant, nous allons continuer avec un autre texte de Dario Fo qui se nomme « Mister Bouffe ». Alors, « mystère », selon les termes de Dario Fo, était le mot qu'on utilisait déjà au 2e, au 3e siècle après Jésus-Christ pour désigner un spectacle, une représentation sacrée. Aujourd'hui encore, pendant la messe, on peut entendre l'officiant dire « dans le premier mystère glorieux, dans le second mystère », et ainsi de suite. Mystère veut donc dire représentation sacrée. Mystère bouffe veut dire spectacle grotesque. Celui qui a inventé le mystère bouffe, c'est le peuple. Dès les premiers siècles après Jésus-Christ, le peuple s'amusait. Et ce n'était pas seulement un amusement à animer, à jouer, comme on disait. Des spectacles de type ironico-grotesque. Parce que pour le peuple, le théâtre, spécialement le théâtre grotesque, a toujours été bel et bien le moyen d'expression par excellence, un moyen de communication, mais aussi de provocation et d'agitation. Le théâtre était le journal parlé et dramatisé du peuple. Nous allons donc lire un premier extrait qui se nomme « Le massacre des innocents ».
Ah ! Aïe ! Aïe !
Frappez, fustigez-vous !
Aïe ! Aïe !
Il y a de la douleur et des gémissements pour le massacre des innocents. Innocents, les mille petits égorgés comme des brebis, des mâts, des mères bouleversées. Le roi Hérode les a arrachés.
Aïe,
frappez, fustigez-vous.
Assassin, gros porc, ne touchez pas à mon enfant.
Laisse-le aller, lâche cet enfant ou je te coupe les mains. Je te donne un coup de pied dans le ventre, lâche-le.
Non, tue-moi plutôt. Il me l'a tué. Assassin!
Tiens, en voilà une autre. Arrête où tu es, femme, ou je vous transperce tous les deux, ton enfant et toi.
Transperce-nous donc, ce sera mieux ainsi.
Ne fais pas l'insensé. Tu es encore jeune, toi, et tu as encore le temps de pondre une bonne douzaine d'enfants. Donne-moi celui-là. Obéis!
Non, et bats les pattes de tes sales pattes.
Aïe! Ah, tu es mort, hein? Alors, attrape. Et lâche ce paquet!
Pitié, je t'en supplie! Ne me le tue pas! Je te donne tout ce que je possède!
Le soldat arrache le gros paquet des mains de la mère et trouve un agneau.
Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une brebis? Un agneau?
Oui, ce n'est pas un enfant, c'est une petite brebis. Je n'ai jamais eu d'enfant, moi. Je ne peux pas en avoir. Oh, je t'en prie, soldat. Ne me tue pas cet agneau! Nous ne sommes pas encore à Pâques. Et tu commettrais un péché grave si tu le tuais.
Femme, est-ce que tu te fous de moi? Ou bien es-tu folle?
Moi, folle? Oh non, je ne le suis pas.
Allez, viens, laisse-lui l'agneau. C'en est une qui est devenue folle de douleur parce qu'on lui a tué son gosse. Qu'est-ce qui te prend? Allez, dépêche-toi. On a encore beaucoup à massacrer.
Attends. J'ai envie de vomir.
Ça m'étonne pas. Tu manges comme une vache. Des oignons, du menton salé, et puis... Tiens, viens avec moi. Il y a une taverne là-bas. Je vais te faire boire un petit coup d'eau de vie.
Non, ce n'est pas ce que j'ai mangé. C'est ce massacre, cette boucherie d'enfants dont nous sommes les responsables, qui me retourne l'estomac.
Si tu savais que tu étais si délicat, pourquoi avoir choisi ce métier de soldat?
Je me suis fait soldat pour tuer des ennemis, des hommes.
Et aussi pour renverser quelques femmes sur la paille, pas vrai?
Oui, à l'occasion, mais toujours des femmes d'ennemis.
Et aussi pour égorger le bétail.
Des ennemis.
Et brûler leurs maisons, et tuer leurs vieux, et leurs gosses. Gosses d'ennemis, bien entendu.
Oui, des gosses aussi. Mais en temps de guerre. Ce n'est pas déshonorant de le faire à la guerre. On entend les trompettes qui sonnent, et les tambours qui battent, et les chansons de guerre, et à la fin, les beaux discours des capitaines.
Oh, mais pour cette boucherie aussi, tu auras droit aux beaux discours des capitaines.
Mais ici, on tue des innocents.
Dans une guerre, ils ne sont pas tous innocents, peut-être? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose, ces malheureux que tu tues et que tu massacres au son des trompettes?
Dun, dun, dun. Sur le fond de la scène... passe la machine qui représente la Vierge et son enfant.
Que je devienne aveugle si ce n'est pas là la Vierge Marie et son enfant que justement nous recherchons. Approchons-nous d'elle avant qu'elle ne nous échappe. Dépêche-toi, cette fois on va avoir le droit à la prime qui est grosse.
Je n'en veux pas de cette sale prime.
Bon, je la garderai pour moi seul.
Non, toi non plus tu ne l'auras pas.
Mais tu es devenu fou. Laisse-moi passer. Nous avons ordre de tuer le fils de la
Vierge. Je chie sur cet ordre, moi! Ne bouge pas d'ici ou je te coupe les jarrets!
Malheureux, mais tu n'as pas encore compris que si cet enfant reste en vie, il deviendra roi de Galilée à la place d'Hérode? C'est la prophétie qui l'a dit.
Je chie aussi sur Hérode et sur la prophétie, moi.
Tu as l'intestin malade, pas l'estomac. Va faire dans un pré et laisse-moi passer. Parce que moi, la prime, je ne veux pas la laisser filer.
Non, j'en ai assez de voir tuer des gosses.
Alors tant pis pour toi.
Oh, oh. Tu m'as tué. Malheureux, tu m'as transpercé les boyaux.
Je regrette, mais tu as agi en imbécile, moi je ne voulais pas.
Le sang me pisse de partout. Oh, maman. Maman. Où es-tu, maman? Il fait sombre. J'ai froid. Maman. Maman.
Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Il était déjà cadavre au moment où il a commencé à éprouver de la pitié.
Soldat qui éprouve pitié est déjà mort à moitié.
C'est le proverbe qui le dit. En attendant, il m'a fait perdre l'occasion d'attraper la Vierge et l'enfant.
Le soldat sort, tirant derrière lui le cadavre de son compagnon. Dun, dun, dun. La Vierge, ou plutôt le mannequin représentant la Vierge, entre.
Ne vous sauvez pas, Sainte Vierge! N'ayez pas peur, je ne suis pas un soldat. Je suis une femme, une mère, moi aussi. Avec mon enfant. Cachez-vous tranquillement ici, les soldats sont partis. Asseyez-vous, pauvre femme. Vous avez bien assez couru. Laissez-moi voir votre enfant. Oh, comme il est beau! Et quelle belle couleur il a! Quel âge a-t-il? Ah, il est beau, très beau. Il est joyeux aussi, dis donc. Il rit. Il est beau, très beau. Il doit avoir juste le même âge que le mien. Est-ce qu'il a un nom? Jésus? Oh, c'est un joli nom, Jésus. Il est beau, très beau. Petit Jésus. Oh, il a déjà deux dents. Comme il est mignon. Ah, le mien n'a pas encore de dents. Mais il a été un peu malade le mois dernier, mais maintenant il va bien. Il est ici, il dort. On dirait un petit ange. Marc, il s'appelle Marc. Il aime bien dormir. Oh chérie, comme tu es beau. Et tu es beau toi aussi, petit Marc. Oh, et c'est bien vrai, hein, nous autres mères, nous sommes faites de telle façon que notre enfant nous semble toujours le plus beau de tous. Et s'il a quelques défauts, on ne le voit pas. Je l'aime tellement, ce petit animal, que si on me le prenait, je deviendrais folle. Quand je pense à la peur que j'ai eue ce matin, quand je suis allée près du berceau, et que je l'ai trouvé vide, maculé de sang, et que je n'y ai pas vu mon enfant. Heureusement, il n'y avait rien de vrai. C'était seulement un rêve. Mais bon, je ne le savais pas que c'était un rêve. À tel point que quand je me suis réveillée peu après, j'avais encore l'impression de rêver et j'étais tellement désespérée qu'on aurait pu me croire folle. Je suis sortie dans la cour et j'ai commencé à blasphémer contre le Seigneur. Ah, Dieu cruel et sans pitié! Je lui ai crié. C'est toi qui as ordonné ce massacre. C'est toi qui as voulu ce sacrifice en échange de la venue de ton fils. 1000 enfants égorgés pour un des tiens. Un fleuve de sang pour une petite tasse. Tu pouvais bien le garder près de toi, ton fils. Si sa venue devait nous coûter un si gros sacrifice à nous autres pauvres bougres. Oh, tu comprendras toi aussi ce que ça veut dire que mourir de douleur le jour où ton fils mourra. Tu comprendras aussi un jour comme il est terrible le châtiment que tu as infligé aux hommes pour l'éternité. Aucun père sur la terre n'aurait eu le courage d'en infliger un pareil à son fils, même un fils mauvais. J'étais là dans la cour à crier ces blasphèmes, comme je vous l'ai dit, quand tout à coup, j'ai tourné mon regard vers la bergerie et j'ai vu qu'il pleurait au milieu des brebis mon enfant. Tout de suite, je l'ai reconnu. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai commencé à pleurer de soulagement.
Je te demande pardon, Seigneur miséricordieux, pour ces vilaines paroles que je t'ai criées. Je ne les pensais pas. C'est le diable, oui, c'est le diable qui me les a soufflées. Tu es si bon, Seigneur, que tu as sauvé mon fils. Et tu as fait en sorte que tous le prennent pour un véritable petit agneau, une brebis. Mais même les soldats ne s'en sont pas aperçus et lui ont laissé la vie sauve. Il faudra seulement que je fasse attention à la campagne, le jour de Pâques. Parce qu'à cette époque-là, on tue les brebis, les agneaux, comme aujourd'hui les enfants. Mais les bouchers viendront me le prendre. Mais moi, je lui mettrai un petit bonnet sur la tête et je l'emmailloterai dans des chiffons pour qu'il croie que c'est un enfant. Mais tout de suite après, je ferai bien attention à ce qu'on le prenne plus pour un enfant. Et même, je l'emmènerai paître et je lui apprendrai à manger l'herbe. Ainsi, aux yeux de tous, il sera un petit agneau. Parce que, dans ce monde infâme, il sera plus facile à mon fils de survivre sous les traits d'un agneau que sous ceux d'un homme. Oh, il s'est réveillé. Il rit. Oh, Sainte Vierge, regardez s'il est pas mignon à croquer, mon petit Marc. Hein?
La femme en trouve le châle et montre à la Sainte Vierge la petite brebis.
Oh, mais Sainte Vierge, vous vous sentez mal? N'en soyez forte, ne pleurez pas. Le pire est passé. Tout finira par aller, vous verrez. Il suffit d'avoir confiance en la Providence qui nous aide tous.
Seigneur, toi qui es si miséricordieux, que tu donnes la folie à ceux qui ne sont pas capables de supporter la douleur.
Dodo, fais dodo, bel enfant de ta maman, Notre-Dame te berçait, tandis que les anges chantaient. Saint-Joseph debout dormait, et l'enfant Jésus riait, et Hérode blasphémait, et mille enfants au ciel volaient. Dodo, fais dodo.
Que no Dios es un pretexto para la mercadotecnia. Una cosa es el negocio y otra cosa es el creer. Pare de sufrir, pare de sufrir. Pare de sufrir, pare de sufrir. Pare de sufrir, pare de sufrir. Aprende exactamente su vida.
Venons d'écouter le groupe mexicain Puerquerama avec Pare de Sufrir. Et nous continuons toujours avec Mister Bouffe, mais cette fois avec la résurrection de Lazare.
Excusez-moi, c'est bien là le cimetière où l'on doit faire la résurrection de Lazare?
Oui, c'est ici.
Ah bon.
Une minute, c'est 10 sous l'entrée.
10 sous.
Mettons 2.
2 sous, bon Dieu. Eh ben pourquoi?
Parce que je suis le gardien du cimetière. Et que vous, vous entrez et me salissez tout. Vous m'abîmez les haies, vous piétinez l'herbe, et je vais être obligé de dédommager tous les tracas et tous les dégâts que vous me causez. Dessous, ou vous ne verrez pas le miracle.
Bon, tu m'as l'air d'être encore un malin, toi.
Eh, ça fera dessous pour vous aussi. Ça m'égale si c'est des enfants. Et aussi, ils regardent. Bon, d'accord, un demi-sous. Fais-tu descendre du mur, vaurien? Il veut voir le miracle gratis, celui-là. Gros malin. Et si on paye, non? Dessous, vous aussi. Dessous, pour rentrer.
Ça, c'est un malin. Tu te fais de l'argent avec les miracles. Oh, maintenant, il faut que je regarde où se trouve Lazare. Il doit y avoir son nom sur la tombe. Oh, la dernière fois, je suis venue voir un miracle d'un autre. Je suis restée une demi-journée à attendre. Et puis, le miracle s'est passé tout au fond, là-bas. Je suis restée là, comme un ballot à regarder. Mais cette fois, je connais le nom. Je me suis informée. Alors, je trouverai le nom sur la tombe et je serai le premier. Lazare? Je le cherche. Je vais mettre... Lazare? Moi, je vais me mettre devant la tombe. Si je veux tout voir depuis le début, voyons. C'est Lazare? Oh, et même si je trouvais la tombe... Avec écrit Lazare, je sais pas lire. Oh, bon, tant pis. Je vais deviner. Je reste ici. J'ai pas eu de chance la dernière fois. J'espère qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe? Oh là, oh là. Non, 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 non. Oh, commencez pas à pousser. Non, non. Je suis arrivé le premier, hein. Je veux rester devant. Non, je m'en moque. Je m'en moque, c'était tout petit. Les petits n'ont qu'à venir plus tôt le matin pour avoir leur place. Malin, hein. Ah, il est petit, alors il se met devant. Non, mais...
Alors on se range en escalier, les petits devant, les grands derrière.
Et puis les petits arrivaient en retard, hein. Et c'est comme ça qu'ils étaient arrivés. Le premier... Pousse pas, je te dis. Tu vas me faire tomber dans la tente.
Crée, non.
Je ne veux rien savoir. Restez derrière. Quoi?
Allez.
Les femmes. Oh, voilà que les femmes se mettent à pousser aussi.
Bon alors, et ça vient, oui ou non? Il doit être hors du miracle maintenant.
Il y a personne qui connaisse Jésus-Christ et quand il l'appelait là. Parce que nous, on est là depuis un bout de temps, non? Alors, on va pas à chaque fois attendre des heures pour les miracles.
Oh, on a dit une heure et on vient à l'heure.
Chaise. Eh, hey, qui veut les chaises? Mesdames!
Moi je veux
une chaise! Dessous la chaise! Pour vous asseoir, mesdames! Au moment du miracle, quand le Saint-Esprit fait sortir le hasard de la tombe, debout et qui parle et qui chante et qui remue, Vous allez tellement avoir peur que vous tomberez à la renverse.
Ah, c'est possible.
Vous irez, bah, vous cognez la tête par terre. Vous serez assommé, morte. Et le sein, là. Il fait qu'un miracle par jour, hein.
J'en prends une.
Un seul par jour. Alors, vaut mieux prendre une chaise et deux sous.
Fichtre, tu penses vraiment qu'à te faire de l'argent, hein?
Alors, il y a personne qui va le chercher.
Non, mais poussez pas, que je veux rien savoir, je vous dis.
Montez pas sur les chaises. Il est culotté, hein. T'as vu? Les petits, ils se mettent debout sur une chaise.
T'appuies pas sur moi, il y a la tombe.
Il arrive pas.
Sardines, elles sont tendres, mes sardines. Dessous, les sardines. Dessous. Sardines grillées, elles sont bonnes. Elles font ressusciter les morts. Dessous.
Sardines, et tes sardines, donne-en donc. Donne-en un cordon à laser. Qui se refasse l'estomac.
Tais-toi, tu blasphèmes.
Ouais.
Il arrive.
Non.
Le voilà.
Et qui c'est? Lequel c'est?
Jésus.
Mais lequel?
Mais non, mais non, celui-là, c'est Marc.
C'est Marc?
C'est celui derrière.
Lequel? Le grand?
Mais non, le petit.
Mais ce gamin-là.
Celui qui a une barbiche.
Oh, t'es vraiment un gamin, hein, bon Dieu.
Regarde, il y a aussi tous les autres.
Oh, oui, Jean, moi je le connais, Jean. Jésus, qu'est-ce qu'il est sympathique, Jésus.
Regarde, il y a même la Vierge. Toute la famille est là. Mais est-ce qu'il les traîne partout avec lui? Oh là là!
Il ne le laisse pas aller tout seul parce qu'il est un peu fou.
Jésus, il est sympathique. M'a fait un clin d'œil.
Jésus. Ouais, fais-nous le miracle des vins et des poissons. C'était si bon.
Tais-toi, tu blasphèmes. Reste tranquille.
Allez, silence, à genoux. Il a fait signe qu'on se mette à genoux. Faut prier.
Elle est où, la tombe?
La tombe.
Regarde! Il a dit de soulever le couvercle.
Oh, la pierre!
Silence. À genoux, à tout le monde à genoux.
Ah non, allez. Pas moi. Moi, je me mettrai pas à genoux, hein, parce que j'y crois pas. Et puis il y a d'autres, hein.
Vas-y, tais-toi.
Laisse-moi regarder.
Non, descends là. Descends de la chaise.
Non, laisse monter.
Laisse-moi, je vais monter, je vais voir.
Nom de Dieu, regarde. Ils ont soulevé le couvercle. Il y a le mort, il tend. Oh, c'est Lazare. Oh, ça schlag. D'où ça vient, cette pionteur?
Oh, crénom.
Vas-y, tais-toi.
Laisse-moi voir. Ah, mais il est tout plein de verre. Et de mouches. Oh, il doit avoir au moins un mois qui est mort, celui-là. Il est tout décomposé. Quelle vacherie on lui a faite, hein. Oh, seule blague. Cette fois, il arrivera jamais, hein, le pauvre.
Oh, sûr qu'il y arrivera pas. Il réussira pas. C'est impossible qu'il réussisse à le faire sortir. Il est pourri. Quelle blague. Bande de vauriens. Ils lui ont dit qu'il était mort depuis 3 jours.
Non.
Ça fait au moins un mois. De quoi il va avoir l'air? Pauvre Jésus.
Ouais, je pense qu'il y arrive quand même. C'est pas n'importe quel saint. Hein.
Ouais.
Il fera un miracle, même si l'autre a tout pourri à moi.
Oh, et moi, je pense qu'il n'y arrivera pas. Il n'est pas capable.
Si. Non. Si.
Ah ben non.
Non.
Bah ouais, vas-y, on parie.
D'accord. Oui. D'accord. 2 sous. 3. 10 sous. Tout ce que tu veux.
Mm-hmm. C'est moi qui prends le pari. La confiance, nous avons confiance, on a tous confiance. Allez, c'est moi qui vais tenir l'argent.
Du calme, ça y est, faites attention, tous à genoux, silence.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Il est là, il prie.
Lazare, lève-toi.
On peut toujours lui dire et même lui chanter. Lève-toi, les vers qui vont sortir d'ici. Lève-toi. Qui ça? Jésus?
Non, Lazare, bon Dieu, regarde.
Oh, allez, tu veux rire. Impossible.
Laisse-moi voir.
Regarde. Ça y est, il bouge. Il te boue. Il marche. Il marche. Et il tombe. Il avance. Il avance. Il est debout.
Miracle. Jésus, douce créature, et dire que j'y croyais pas.
Bravo, Jésus.
Bravo.
J'ai gagné le pari. Donne. Et là. Fais pas le malin.
Eh, bravo, Jésus.
Eh, oh, ma bourse. Ils m'ont volé ma bourse. Non, mais au voleur.
Bravo, Jésus.
Jésus.
Jésus,
au pied. Bravo, Jésus. Oh. Ouais, Jésus.
Personne n'avait voulu de lui. Il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Marie de Magdala, le monde entier laissa éclater sa joie en chantant Jésus est là. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, nous suivons ton chemin.
Et donc, nous venons d'écouter ce fabuleux extrait de La vie est un long fleuve tranquille pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Et juste avant de finir cette session sur Dario Fo, j'aimerais présenter la personne dont on ne peut pas oublier de parler, c'est ça surtout, quand on parle de Dario Fo, c'est Franca Raimé, sa compagne, qui avec qui il a coécrit de nombreux textes, dont les fameux récits de femmes que nous avions présentés il y a quelques années également sur le théâtre de la Gamelle. Alors, Franca Raimé, elle nous a écrit un petit texte sur Dario Fo que je vais vous lire. Voilà ce que je pense de Dario Fo, écrivain de théâtre. De Dario, écrivain, metteur en scène, acteur, bien des gens déjà ont parlé. Ce que je peux ajouter, personnellement, concerne sa façon d'être en scène. Toujours présent, toujours prêt à saisir l'humeur du public, avec un tempo inimitable. Camarade jusqu'au bout des ongles pour les camarades qui travaillent avec lui. Fâché parfois de son propre succès par rapport à celui d'un camarade. Toujours attentif à ménager à tous des satisfactions personnelles. Qu'un camarade soit privé des rires qui lui reviennent, il s'évertue. Il n'a de cesse que ce camarade les rattrape. Donc voilà. Et nous terminons donc cette session sur Dario Fo.
Merci Charlotte, à toi pour la préparation de cette émission. Vous aurez bien évidemment l'occasion de réécouter cette émission sur le blog du Théâtre de la Gamelle une fois que le montage sera fait. Donc patience, ça viendra. On fait peut-être un petit rappel à des personnes qui ont lu. Nous avions donc avec nous Jade Bréchelière, Charlotte Touilleux, Fata, redis-moi ton prénom,
Fata, j'ai pas Boudia. Ma note.
Fata Boudia, c'est ça. Jules Jobard, Anaïs Sintas, Miguel Peltera et Pauline Thirault. Et Miguel, justement, je laisse la place à un double que tu connais bien, qu'il s'appelle Thomas Aline, et dont vous aurez l'occasion de réentendre des textes, des mots, en tout cas la voix, pendant l'année. Voilà, pour une petite chronique que tu nous as préparée.
Oui, c'est bien ça. Voilà, bonjour tout le monde. Et mes chroniques, donc je vais voir des pièces et puis Je vous les résume. Voilà, aujourd'hui, vous allez entendre la première, et allons-y. Donc, j'ai été voir Phédra, de Yanis Ritsos, qui est mis en scène par Théophile Dubu et Mathilde Panis. C'est plutôt une bonne occasion de voir une réaction de vraies femmes grecques, de vraies femmes grecques de théâtre. Et donc, la voici, en 3 minutes.
Ah! Et tous les saints, pourquoi? Vois, j'arrache mon masque de chair. Vois, je me mets sous les sabots des chevaux de toute l'écurie d'Augias. Que n'a-t-on eu assez de la dictature militaire pour nous casser les os, nous briser? Il faut aussi que tu m'abandonnes. Ah! La terre ne pourra supporter une telle misère. Oh, je la sens. Elle va s'ouvrir sous moi. Il ne restera rien d'Athènes. Rien. Ces ruines englouties sous mes larmes. Ces pierres me perçant les pieds. Vois. Vois mon malheur. Par ta faute. Ta faute. Les eaux du Styx n'en pourront laver la tache. Vois. Vois, j'avale ces paillettes. Oh, par une poignée entière. Elles me coupent de l'intérieur. Elles me suffoquent. Vois, je les avale comme j'ai avalé tes promesses. Elles me coupent de l'intérieur comme le font tes promesses. Elles me suffoquent comme le font tes promesses. Ah, comment ai-je pu y croire? Comment ai-je pu te laisser me suicider ainsi? Parce que c'est ça. Puisqu'aujourd'hui tu veux partir, c'est que tu m'as tué dès le premier regard. Ton corps. Comment n'ai-je pas pu voir à quel point c'est une arme? Et le mal qu'il peut faire, et comme il peut m'arracher la peau. Et ne pense pas que ce soit une victoire. Non. Mon malheur, tu le porteras comme un fardeau. Toute ta vie. Et je te la souhaite longue, dans la souffrance. Vois, je ferme ma main, déjà atteinte de raideur cadavérique, sur ta cheville. Et tu traîneras mon corps en décomposition, toute ta vie. Et je te la souhaite longue, dans la souffrance, tes promesses. Moi, tes yeux. Ton corps. Hâteuse. Et tous les saints, pourquoi? Pourquoi?
Alors, et ça, c'est juste quand on va chercher le pain, sans prévenir. Alors, imaginez quand on va boire des canons avec les copains. C'est Phédra, et qui jouera encore ce soir au Lavoir Public à 20h, et le 14 octobre à la Rotonde, à Villeurbanne. Et pour avoir osé un tel texte, je dis Kalitiki.
Voilà, donc la traduction en grec de Kalitiki, j'imagine que c'est chapeau.
Non, bonne chance.
Voilà, et merci à Jade pour avoir lu justement cet extrait. Voilà. Eh bien, sur ce, nous espérons que vous avez tous passé un agréable moment sur le théâtre de la Gamelle, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine de 13h à 14h en direct sur Radio Canu avec une lecture proposée par Jade Bréchelière qui est présente aujourd'hui, et ce sera une lecture sur, attention,
Marina Tsvetaeva.
Voilà, parce qu'avec l'accent, c'est tellement mieux. Alors à toutes et à tous, passez une super bonne semaine. On vous fait des becs. Ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, ce noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.